drôle d'histoire. Karine Delphini.
Bonsoir. 21h04. J'imagine que vous avez fini de manger. Ou peut-être pas d'ailleurs. Dans tous les cas, on va mettre les pieds sous la table et se faire servir des récits culinaires. Mais comment vous dire ça? Ils seront indigestes. Voilà. Non mais ne quittez pas la table pour autant. Soyons fous, mangeons. Le temps d'une chanson en guise d'apéritif. Kim Tanguy va m'accompagner pour cette drôle d'histoire. Et la musique, comme chaque fin de semaine, c'est Jean-Baptiste Roumains qui l'a choisie. Première chanson, celle qui tombe actuellement, La nuit.
Descend lentement la nuit, regardez-la s'approcher de nous. Elle voudrait bien sans faire de bruit nous surprendre entre chien et loup. Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, il fait déjà noir dans les bois et la ville sombre à l'heure d'hiver. Descends lentement la nuit, comme un brouillard, elle éteint les voix. Mais celle qui chante en moi se rit de l'heure des ombres et du grand froid. J'ai soufflé sur tant de bougies pour les rallumer. Elles ont toujours rythmé ma vie, ces flammes, ces danseuses de salon. Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, il fait déjà noir dans les bois et la ville sombre à l'heure d'hiver.
The night falls, and day breaks, and bad calls, and mistakes. Sunset, sunrise, unrest, uprise. Sun's out, wish I'd stayed in the park. Keep my eyes open wide, I'm just afraid of the dark. Need the white to have the black, aren't you glad that we waited? Our lives are manuscripts, illuminated.
Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, mais tu pourrais bien cette fois brûler tes ailes à nos lumières. Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, mais tu pourrais bien cette fois brûler tes ailes à nos lumières.
La nuit, Enrico Macias. C'est sous un ciel orageux et sombre que ce récit va prendre ses aises. Vous connaissez sûrement l'expression ça sent le pâté. Mais cette histoire sent le pâté. Oui, plus que vous ne pouvez l'imaginer, puisque le titre est « Aux mille et un pâtés ». C'est une nouvelle de Catherine Gaillard-Sarron, tirée de son livre « Des taureaux et des femmes », publiée aux éditions Plaisir de lire. Une longue histoire, entrecoupée de musique. On va prendre le temps d'installer le décor, de découvrir les personnages et de tâter l'ambiance. En ce jour de marché, la boutique aux mille et un pâtés ne désemplissait pas. Depuis le matin, ce n'était qu'un défilé ininterrompu de clients. Il était presque 13 heures à présent. Et Marie-Jo, lasse, attendait que diminuât un peu cet incessant va-et-vient pour prendre une pause. Ouais, elle était exténuée. Tout en servant une énième terrine à une habituée, elle observa du coin de l'œil Marcel, son mari. Lui aussi, il avait l'air épuisé. Il accusait ses 50 ans. Sous sa crinière sombre, à peine mêlée d'argent, la fatigue marquait son visage volontaire. Petit spasme agitait par intermittence sa mâchoire carrée. Son regard semblait plus noir, plus... je sais pas, plus intense. Elle jouait bien son rôle. Mais en dépit de son air affable et des boniments habituels adressés aux clientes, Marie-Jo ne s'y trompa pas. 20 ans de vie commune avaient aiguisé son sens de l'observation. Au-delà de la fatigue, qui creusait ses traits réguliers, elle percevait autre chose. Sous l'air jovial et le tablier blanc, la tension qui animait l'imposante carrure de son mari était palpable. Ils avaient pourtant toutes les raisons de se réjouir. Installés depuis 3 ans à peine, leur commerce de boucherie-traiteur était un succès et tournait à merveille. Cette année encore, la boutique avait dégagé de substantiels bénéfices et leur renommée avait largement dépassé les frontières de la région. Oui, Marcel savait y faire. Il avait des mains en or. Tout ce qu'il touchait, porc, veau, bœuf, agneau, volaille, lapin, gibier, tout ça, ça se transformait en terrine et pâté si exquis et savoureux que tout le monde en voulait. Marie-Jo se plaisait à dire aux clients que ceux qui avaient goûté n'en revenaient pas et revenaient sans cesse chercher au mille et un pâté ce petit goût de reviens-y. C'était magique. Ça avait même dû prendre un apprenti au début de cette année pour faire face à la demande toujours croissante. Mais, cette réussite avait toutefois un prix. Eh oui, Marcel et Marie-Jo, stressés, surmenés, accaparés par leur florissant commerce, s'éloignaient inexorablement l'un de l'autre. Trop absorbés à faire tourner la boutique, ils avaient négligé leur relation qui se dégradait depuis des mois. Marcel, en particulier, consacrait une grande partie de son temps et de son énergie à l'élaboration de nouvelles recettes. Et Marie-Jo, elle souffrait de cette situation. À plusieurs reprises, elle avait tenté d'en discuter avec lui. Et il l'avait repoussée, à chaque fois, prétendant que ce n'était pas le moment de se relâcher et de baguenauder. Il fallait faire tourner le commerce. Voyons, la bagatelle pouvait attendre. Eh ben, Marie-Jo, elle en avait assez de trimer. Oui, assez de trimer comme une malade. Elle voulait sortir. Elle voulait prendre des vacances, faire l'amour, se reposer, vivre, quoi. Chiffre d'affaires n'était pas tout, et il lui avait dit ça à Marcel. Mais Marcel l'avait regardé avec mépris, et il en avait été blessé. Et bien voilà, depuis les choses s'étaient encore aggravées entre eux. Oh, elle avait aimé Marcel, hein, et passionnément même. Aujourd'hui, elle ne savait plus. Cassant, intransigeant, il la traitait à présent davantage comme une employée que comme sa femme. Marie-Jo exigeait un minimum d'amour, de respect pour pouvoir continuer à vivre. Heureusement, elle avait trouvé une parade qui l'aidait à garder son équilibre. Marcel, lui, semblait toujours plus distant et renfrogné. Alors vers 13h30, l'affluence ayant diminué, Marie-Jo jeta un regard entendu à Marcel et s'éclipsa un moment dans l'arrière-boutique. Elle tourna instinctivement la tête vers la boutique, puis composa un numéro sur son portable. Elle attendit... attendit, l'impatience creusant les traits de son visage fin et délicat. Pourquoi est-ce qu'il répondait pas? Ce silence la contrariait. Elle but son café en feuilletant distraitement un magazine et retourna au travail vers 14h. À son tour, Marcel prit une pause. Seul au comptoir, Marie-Jo songea avec amertume que leur vie n'était plus qu'un manège triste et absurde où jour après jour ils tournaient sans fin l'un derrière l'autre. Oh, la griserie était bien loin. Marie-Jo soupira. Oui, les choses avaient bien changé. Marcel ne la faisait plus rire ni jouir. Il s'enfermait des heures durant dans son laboratoire pour travailler. Le temps de servir le dernier client et de fermer la boutique, il était 19h. Marcel tira le rideau de fer. Et sur la place, les terrasses étaient bondées, l'animation allait bon train. Ah, Marie-Jo envia soudain tous ces gens qui lézardaient au soleil. Eh oui, ils prenaient le temps de vivre. Après une journée aussi éprouvante, elle aussi se serait bien vue boire un verre sur une terrasse. Dans l'appartement, Corinne et Adrien, leurs enfants, regardaient la télévision. La table était mise, le fumet d'un pâté embaumait la cuisine. Après que son mari se fut changé, ils passèrent à table et dégustèrent avec appétit l'un des nouveaux pâtés qu'il avait confectionné la veille dans son laboratoire. Tous le trouvèrent succulent. Les enfants racontèrent leur journée, parlèrent de tout, de rien. Éperdue dans ses pensées, Marie-Jo resta silencieuse. À la fin du repas, Marcel, qui semblait plus détendu, aborda le sujet de l'anniversaire de Marie-Jo. « Pour ton anniversaire dimanche, c'est moi qui préparerai le repas. Non. Ne me demandez rien. Dit-il d'une voix mystérieuse à l'adresse des enfants qui voulaient connaître le menu. C'est une surprise. Ah, c'est vrai. Tiens, c'était son anniversaire dimanche. Elle avait oublié. Hein ? Marie-Jo le regarda d'un air étonné et puis lui sourit. Elle ne s'attendait pas à ça. Les enfants applaudirent. Et... Ah oui, parce que leur père cuisinait comme un chef, un as, au couteau comme au fourneau, comme il disait. La vaisselle faite, Marcel et les enfants s'installèrent à nouveau devant la télé. Marie-Jo les regarda. Hésita un instant et puis, attrapant son sac, leur cria depuis la porte « Je vais faire un tour pour me détendre, à tout à l'heure !» Marcel la suivit des yeux un instant, puis les ferma quand la porte se referma sur elle. Marie-Jo prit la petite ruelle qui menait vers le parc. Il faisait moins chaud à présent, l'air était léger, enfin agréable. Le soleil inondait de sa lumière dorée la ville qui s'assoupissait. Marie-Jo respira un grand coup et offrit un instant son visage là à la brise qui se levait. Enfin un peu d'air, pensa-t-elle tout en marchant. Et puis elle sortit son téléphone portable et, négligeant la convention, composa pour la troisième fois depuis lundi le numéro de Georges. Mais pourquoi est-ce qu'il répondait pas? Elle savait qu'elle devait être plus prudente, limiter ses appels. Mais le dernier message datait du vendredi 9 juillet, on était le 13. Marie-Jo était plus énervée qu'inquiète du silence de son amant. Depuis le début de leur relation qui datait... Ah bah tiens, oui c'est vrai. C'était il y a un an. Oui, le 18, le jour de mon anniversaire, pensa-t-elle. En pensée, elle revit la scène de cet anniversaire raté. Tout avait pourtant bien commencé. Marcel, son mari, lui avait d'abord offert de magnifiques roses rouges, et puis lui avait recommandé de se faire belle, parce qu'il l'emmenait chez Charles. Charles, un restaurant gastronomique à la mode. Le dîner avait été succulent. Les choses avaient dérapé au café. Un peu trop d'alcool, de fatigue, une remarque déplacée sur sa robe, ses formes généreuses, son poids. Elle s'était fâchée, Et voilà, le ton était monté, il s'était dit des choses vraiment très désagréables. Et puis elle avait pleuré, elle s'était levée. Elle se souvenait de son air abasourdi quand elle l'avait planté au beau milieu du restaurant. Et puis de sa colère à elle, de la tristesse qui l'avait envahie devant ce gâchis. Marcel ne comprenait jamais rien. Et puis, elle lui en voulait de ce manque de délicatesse à son égard. Elle revit sa déambulation nocturne dans les rues animées, et puis l'orage qui l'avait poussée à s'abriter devant cet hôtel chic qu'elle ne connaissait pas. Triste et abattue, elle était alors entrée dans le bar de cet établissement discret. Et contrairement à ses habitudes, elle avait commandé un cognac. Elle l'avait bu d'un trait. Et c'est là qu'avait rencontré Georges. Ah oui, elle avait 44 ans, le temps passait si vite, elle avait eu envie, besoin de se laisser séduire par cet homme élégant. Il avait fait rire et un instant, elle avait oublié l'existence fade et grise où elle s'enlisait doucement. Il la regardait, c'est sûr, il la désirait. Et Marie-Jo s'était sentie exister sous son regard ardent. Alors elle avait répondu à ses avances, à sa douceur, à ce besoin inassouvi qui la rongeait et l'évidait de l'intérieur. Marie-Jo songea qu'à force de lui reprocher de ne pas être la femme parfaite qu'il espérait, Marcel, en définitive, avait lui-même créé les circonstances qu'il avait poussées dans les bras de Georges. Non, elle n'était pas telle qu'il la désirait. Elle était, elle, Marie-Jo, une femme ordinaire qui faisait au mieux avec ce que la vie lui avait donné. Elle savait que la déception de son mari à son égard était à la mesure de ses attentes irréalistes. Il l'ignorerait toujours, mais c'est lui qui avait fait le lit de cet adultère. Quand elle était rentrée vers 3 heures du matin, Marcel ronflait au travers du lit tout habillé. Il sentait l'alcool à plein nez. Écœurée, elle avait terminé sa nuit dans la chambre d'amis. Le lendemain, Marcel n'avait rien dit. Elle non plus. Et les choses avaient repris leur cours et Marie-Jo sa place dans le lit conjugal. Dès le début de leur relation, Georges et Marie-Jo avaient mis au point une convention. Mariés tous les deux, ils ne remettaient pas en cause leur union respective. Cette liaison leur apportait la bouffée d'oxygène qui manquait à leur vie. Cela leur suffisait. Pour préserver le mystère et le désir qu'ils avaient l'un de l'autre, leur vie privée était taboue. Ils s'appelaient peu, ils se rencontraient seulement le mercredi après-midi. Eh oui, seul jour qui convainc Marie-Jo. Être amant, simplement amant, ça leur suffisait. Ils se retrouvaient au diplomate, lieu de leur première rencontre, oubliant le quotidien dans la fusion des corps. Et ils se donnaient l'un à l'autre, se redonnant dans cet échange l'énergie qui leur permettait de poursuivre leur route. Cette liaison était la parade que Marie-Jo avait trouvée pour garder son équilibre. Et en pensant à son amant, Georges, une angoisse indéfinissable l'étreignit douloureusement. Et Marie-Jo prit soudain conscience qu'elle aimait Georges au-delà de ce qui était convenu. La famille était toujours arrivée devant le poste de télévision quand elle rentra vers 21h30. Seul Marcel tourna la tête dans sa direction. Mais trop éloignée, elle ne put déchiffrer son regard. Elle repensa soudain au tablier, taché de sang, de son mari, et s'en fut à la buanderie mettre une lessive. Assise devant la machine qui tournait, Marie-Jo, comme hypnotisée, se laissa entraîner dans le carrousel infernal des souvenirs et des pensées ressassées. Aimait-elle encore Marcel? Ce compagnon silencieux, distant, mais travailleur et honnête? Cet homme qui ne la regardait plus, ne la voyait plus, qui ne lui témoignait plus aucune affection, ne lui faisait plus l'amour. Aimait-elle Georges? Georges, qui lui offrait ce qui lui manquait, qui comblait le vide de sa vie, mais dont elle savait ne pas devoir tomber amoureuse. Ses pensées tournaient sans fin dans sa tête, comme le linge dans la machine à laver. Elle ne savait plus où elle en était. Mais on va lui laisser le temps de réfléchir un petit peu à Marie-Jo. L'intrigue va arriver juste après cette chanson.
tourne, blanc comme l'éclair dans le soir. Le truc auquel on s'attend pas, le coup de bâton par derrière. Mais non, 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 j'y crois pas. Ça. Mais non, 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 je veux pas. Ah non, pas ce soir, pas comme ça. Je dansais la tête en l'air le soir de l'anniversaire, tout un tour de calendrier. La liberté enlacée à l'un à l'autre, sûr de ta voix oubliée. Mais non, non, ah non, 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 pas toi. Ah, le hasard qui veut ça.
C'est normal. Allez, on reprend un verre ou deux, comme au bon vieux temps.
Le jour de l'anniversaire par Marianne Dysart. Alors, suite de notre histoire, résumons. Nous sommes au 1001 pâté. Un récit de Catherine Gaillard-Saron. Nous avons un couple, Marie-Jo et Marcel. Marie-Jo qui est terriblement malheureuse parce que Marcel ne la comble plus. Et son manque d'amour envers elle l'a conduite dans les bras de Georges. Georges, qui depuis quelques jours ne répond plus au téléphone. C'est une catastrophe. Alors Marcel, le mari donc, prépare l'anniversaire de Marie-Jo. Il a même dit qu'il préparait une surprise. La semaine se termina sans appel ni message de Georges, et le dimanche advint. En dépit des cadeaux offerts par ses enfants à son réveil et des odeurs subtiles et alléchantes qui s'échappaient déjà de la cuisine, Marie-Jo ne parvenait à se montrer détendue. Cette journée d'anniversaire s'annonçait comme un calvaire. Vers midi et demi, la sonnette de l'appartement retentit. « Marie-Jo, va ouvrir !» cria son mari depuis la cuisine. Marie-Jo se dirigea vers la porte d'entrée, l'ouvrit et se retrouva congratulée par un groupe de personnes qui la repoussèrent aussi sec à l'intérieur. Il y avait là son frère et sa femme, sa belle-sœur et son mari, et puis aussi Gina, sa belle-mère. « Ça, pour une surprise, c'est une surprise, dis donc !» dit Marie-Jo à la famille qui l'entourait et l'embrassait. « Et tu n'as encore rien vu ?» dit son mari en la regardant d'un air impénétrable. Décontenancée par cette prévenance inhabituelle, Marie-Jo ne savait plus trop quelle attitude tenir. Elle servit l'apéritif pour dissimuler son trouble et quand Marcel lui en donna le signal, invita les convives à passer à table pour déguster le festin promis et concocté par le maître de maison. Consommer sans modération, annonça Marcel sur un ton solennel, quand sa sœur, transformée en serveuse pour la circonstance, présenta les bols emplis d'un bouillon fumant aux effluves délicats. Chacun des 9 convives plongea alors solennellement sa cuillère dans le bouillon délectable, et des soupirs de contentement fusèrent des gorges ravies qui se mirent à glouglouter autour de la table. Mais c'est excellent, mais mon Dieu, mais c'est toi qui as fait le bouillon ? Demanda sa mère intriguée. C'est moi, maman, et je ne te dirai pas mon secret. Marcel regarda sa femme. Tu aimes ? Oui, c'est délicieux, vraiment. Marie-Jo lut une réelle satisfaction dans les yeux de Marcel, mais curieusement, cela ne lui fit pas plaisir. Impressionnant dans son grand tablier, sa toque immaculée, son mari avait troqué son habituelle distance contre un entrain un peu factice qui ne l'abusait pas. Il semblait très attentif à l'effet que produisait sa création sur les invités. En dépit de ce qu'elle ressentait pour Marcel, Marie-Jo convint néanmoins qu'il avait l'étoffe d'un vrai chef. Imaginatif, précis, rigoureux, talentueux et doué d'un sens artistique véritable. Oui, ne lui manquait que la chaleur humaine et la tendresse. Terrine d'amour pimentée, susurra Marcel, déposant cette fois devant Marie-Jo admirative un véritable tableau gastronomique. Inclinée sur un lit de salade saisonnière et parsemée de petits éclats rouges, une terrine en forme de cœur trônait au centre de l'assiette. Un piment oiseau, quelques fleurs de ciboulette et de courgettes coiffaient le cœur à son sommet, et des pétales de tomates pareils à des larmes de sang fleurissaient le tour de l'assiette en porcelaine délicate. Parfumée à l'huile de sésame, relevé d'un filet de vinaigre balsamique, l'ensemble, en plus d'être divinement odoriférant, était saisissant. Devant ce spectacle ravissant, des applaudissements spontanés éclatèrent autour de la table. Tous félicitèrent Marcel pour son grand talent. Pendant un moment, seul un léger bruit de mastication, quelques soupirs d'aise s'échappèrent des gosiers enchantés. Une petite pause, et puis Marcel, décidément en verve, revint triomphant en énonçant le plat suivant. La surprise du chef, ou rôti carabas, dit-il d'une voix suave, plongeant son regard sombre dans les yeux clairs de sa femme. Claudia, sa belle-sœur, déposa cérémonieusement l'assiette devant Marie-Jo. 2 fines tranches de rôti, dont la viande semblait recomposée, piquetés de roses et de vert, se chevauchaient en pyramide sur un lit de poireaux à la crème. Quelques pommes duchesse étaient dressées sur un côté de l'assiette et un collier de tomates cerises cuites au four courait sur l'autre. Un filet de sauce au poivre rose et vert, nappait le rôti et lui donnait un aspect brillant et appétissant. Quelques brins de ciboulette, négligemment jetés sur le dessus, et une fleur entièrement faite de dentelles de carottes et de courgettes, conférait à l'ensemble un raffinement exquis. « Mais c'est magnifique ! Bravo, mon fils, tu es un véritable artiste ! Mais c'est le Botticelli de la cuisine !» proclama alors dithyrambique sa mère en attaquant le plat de résistance. Marcel ne répondit pas. Il regardait Marie-Jo, intensément. Sentant sur elle ce regard insistant, Marie-Jo leva les yeux et croisa celui de son mari. Tous la regardaient. Et se sentit mal soudain. « Alors, tu ne dis rien ?» s'étonna son frère. « Tu n'aimes pas ?»« Si, si, naturellement, » s'empressa de répondre Marie-Jo, encore un peu gênée. « Je n'ai jamais rien mangé de pareil. » J'essayais de reconnaître la composition de ce rôti de viande. La saveur m'échappe. Qu'est-ce que tu as mis comme mélange cette fois ?
Secret de fabrication, répondit son mari d'un air mystérieux en posant un doigt devant sa bouche. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai combiné plusieurs morceaux. Qu'en plus des poivres roses et verts, j'ai ajouté du poivre, du cognac, de la sauge aussi. Et le reste, vous devrez le deviner. Pour les convives, en définitive, peu importait la fabrication. Ce qui comptait, c'était le résultat et il était parfait. Et le repas se poursuivit avec le dessert. Et puis un petit peu plus tard, Gina, qui avait souhaité offrir le gâteau d'anniversaire, apparut avec une tourte illuminée de 45 bougies et somma sa belle-fille de les souffler toutes. Alors sous les encouragements familiaux et l'incontournable « Happy birthday », Marie-Jo s'exécuta de bonne grâce. Son mari se leva alors, lui, le silencieux, l'avare de mots, pour se fendre d'un petit discours. Tout sauta légèrement pour éclaircir sa voix ou masquer son trouble et commença. Je voudrais tous vous remercier d'être là, vous remercier de partager, en l'honneur de Marie-Jo, ce repas d'anniversaire dans lequel, je vous l'avoue, j'ai mis plus que mon cœur. Mais vous l'avez apprécié et c'est ce qui m'importait. Vous savez, la cuisine est un art plus complexe qu'il n'y paraît. On dit même que cuisiner, c'est fabriquer de la famille. Si cela est vrai, nourrir les siens, c'est donc créer et tisser des liens entre eux. Alors, quand en plus, c'est une passion, quoi de plus beau que de cuisiner pour ceux qu'on aime? En ce jour d'anniversaire, je n'ai rien trouvé de mieux à offrir à Marie-Jo que ses plats, né de l'amour qu'elle a pour moi et que j'ai pour elle. Aujourd'hui, j'ai cuisiné de l'amour. Et par cet acte, j'ai créé des liens, de la complicité entre nous tous. Grâce à la nourriture que je vous ai préparée, vous avez mangé. C'est presque... une communion. Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Un vrai mystère, la transsubstantiation, vous ne trouvez pas ? Il hésita un instant, comme s'il voulait rajouter quelque chose, et puis conclut. Voilà. Alors encore merci à tous pour vos compliments, votre fraternelle complicité, et je cède la parole à Marie-Jo, qui n'échappera pas aux petits discours de circonstance. En dépit de l'ambiguïté de ses paroles, la famille applaudit chaleureusement Marcel. Marie-Jo se leva et, en guise de remerciement, embrassa tendrement son mari, le félicitant pour ce cadeau si particulier. Le gâteau fut mangé, le café servi et resservi, et puis les premiers convives prirent congé. Et vers 17h30, tous étaient partis, même les enfants. Oui, Marcel ayant accédé à leur demande de passer quelques jours de vacances chez leur oncle. Marie-Jo ouvrit la fenêtre en grand pour aérer la pièce et il lui fallut plus de 2 heures pour tout remettre en ordre. Et pendant tout le temps où elle s'affaira, elle ne cessa de songer au discours qu'avait tenu son mari au dessert. Qu'est-ce qu'il avait voulu dire ? «
trapue de fatigue, elle s'affala enfin dans le fauteuil près de la fenêtre. En face d'elle, Marcel s'était assoupi et ronflait légèrement dans l'autre fauteuil. Au bout de 10 minutes, n'y tenant plus, elle prit sa veste et sortit. « Je vais prendre l'air un moment », pensa-t-elle avant de sortir. « Je serai de retour vers 20h30. » Elle l'entendit vaguement grogner en refermant la porte d'entrée. L'orage avait cessé, la route sentait bon la pluie chaude. Marie-Jo fit quelques pas, tourna au coin de la rue et sortit son portable. Consulta sa messagerie. Rien. Elle appela Georges, rien non plus. Elle était troublée. Une angoisse diffuse s'était emparée d'elle et l'oppressait depuis quelques heures. « Allez, calme-toi », se raisonna-t-elle. Soit il a eu un problème et il ne peut pas te répondre, soit il ne veut plus te voir, et puis voilà, ton aventure est finie. Cette pensée, elle eut comme un coup à l'estomac. Et Marie-Jo mesura à quel point elle s'était attachée à Georges. Et à cet instant, s'il l'avait appelée, elle aurait tout quitté, sans hésitation, pour le rejoindre. Déçue, elle retourna à son domicile et retrouva Marcel, toujours dans le fauteuil. Puis elle entendit Marcel se réveiller. Elle se leva prestement pour préparer du thé. Marie-Jo regarda la télé un moment et puis monta se coucher vers 22h30. Marcel, l'air absent, fixait l'écran en sirotant un scotch. « Tu ne montes pas ?»« Si, je finis mon verre. » Il vint la rejoindre 10 minutes plus tard. Elle s'était mise au lit et avait repris le roman commencé le matin. Son mari se tenait devant elle, un paquet à la main. Une drôle d'expression allumait ses yeux gris. « Tiens, c'est pour toi. » Marie-Jo le regarda étonnée. « Ah bon ? Un cadeau pour moi ? Mais tu as déjà tant fait aujourd'hui » dit-elle sincère. Elle songea tout à coup que les enfants n'étaient pas là, que ce n'était peut-être pas un hasard. C'était son anniversaire après tout. Elle prit le paquet et s'assit au bord du lit. Intriguée, Marie-Jo se mit à défaire le paquet. Elle découvrit une boîte qu'elle ouvrit doucement. À l'intérieur, elle y trouva un autre paquet, plus petit, et un papier plié en 4 qui lui sembla familier. Et là, son cœur se mit soudain à cogner violemment dans sa poitrine. « Mais qu'est-ce que c'est ? » put-elle s'empêcher de demander en tremblant. « Bah, lis, tu verras bien !» dit Marcel d'un ton qui l'alerta. Elle reconnut tout de suite l'entête du papier de l'hôtel, le diplomate. Alors là, sa vue se brouilla. Mais enfin, qu'est-ce, c'est quoi ? Lis, tu sais très bien ce que c'est, reprit Marcel d'une voix qui fit battre son cœur. Marie-Jo regarda à nouveau le papier et lut. C'était une réservation pour une chambre au diplomate en date du mercredi 14 juillet. Affolée, elle porta son regard au bas de la page et reconnut la signature de Georges. Oh mon Dieu ! Elle retint un cri et demanda d'une voix blanche. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce que tu as trouvé ça ?» Marcel ricana. « Dans sa poche, pardi !» Marie-Jo avait beau être assise, elle sentit subitement un cratère s'ouvrir sous ses pieds. « Ouvre l'autre !» intima durement son mari. Pareil à un automate, Marie-Jo prit le deuxième paquet et le déballa. Et quand entre ses mains, soudain glacées, elle vit pendre la chaîne qu'elle avait récemment offerte à Georges, elle ne put retenir un gémissement de souffrance. « Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla soudain Marie-Jo en proie à une angoisse insoutenable. Calme, froid, Marcel l'observait presque avec satisfaction. « Ça fait mal, hein ?» En proie à la panique, elle se dressa d'un coup et se jeta sur lui en le frappant de ses poings. « Espèce de salaud, mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Réponds !» Pour toute réponse, Marcel lui tordit brutalement les poignets et la repoussa sur le lit où elle s'effondra en grimaçant de douleur. Mais la colère et l'inquiétude la firent se redresser à nouveau. Elle le supplia en pleurant. « S'il te plaît, dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu lui as fait. Mais pourquoi est-ce que tu veux savoir, hein ? Il t'intéresse tant que ça ?
S'il te plaît, réponds, s'il te plaît. Dis-moi.
Tu l'aimes, hein, lui, c'est ça, hein ? Tu l'aimes ?» cracha Marcel d'une voix subitement étranglée. Marie-Jo le dévisagea soudain surprise.
Mais il s'était déjà repris et la toisait maintenant avec tant de mépris qu'elle prit peur. Mais qui était cet homme? De quoi était-il capable? Qu'avait-il fait à Georges? Marie-Jo ne reconnaissait plus son mari. Était-ce l'alcool qu'il avait bu? Il lui faisait horreur. Marcel la fixait intensément. Cette souffrance, cette angoisse, ce mépris dans ses yeux, se rendait-elle compte du mal qu'elle lui infligeait? « Je l'ai cuisiné un peu », reprit-il sarcastique au bout d'un moment, un sourire féroce déformant son visage. « La chair à pâté, c'est ma spécialité, non ?» Voyant l'horreur dilater les pupilles de sa femme, il partit d'un grand rire, un rire énorme, grotesque. « Oui, de la chair à pâté, j'en ai fait, exact, de la chair à pâté !»« C'est pas possible, tu mens !» Épouvantée, Marie-Jo repensa soudain à la scie métaphorique terrine pimentée, à la surprise du chef, à la panna cotta sanglante, aux allusions équivoques de son discours de l'après-midi. Elle devint livide, des nausées incoercibles à saisir, et Marcel poursuivit d'une voix sentencieuse. « Prenez et mangez, car ceci est mon corps, c'est pas ça le mystère de la transsubstantiation ? Mais non ! » Violents spasmes contractèrent son ventre. L'horreur aussi pouvait être inouïe. Son estomac se révulsa brusquement. Marie-Jo n'eut pas le temps de courir aux toilettes. Elle se mit soudain à vomir violemment et par saccades sur le sol de la chambre à coucher. Et impitoyable, Marcel continua. Et puis réfléchis bien, hein, avant d'aller me dénoncer à la police. Parce que vous êtes tous complices. Toute la famille. Recel et consommation des pièces à conviction, hein? « Ça va chercher dans les combien, à ton avis » ironisa-t-il. Marie-Jo, blême et agitée de soubresauts, vomissait sans discontinuer. Il la considéra un instant, un regard étrange, sans expression. « Tu me déçois, » finit-il par lâcher, « puis tu me fais pitié. » Sa voix avait perdu son accent théâtral, une sorte de lassitude en émanait à présent. Il exécuta encore une petite révérence ridicule devant elle. « Le marquis de Carabas te salue !» Puis juste avant de sortir, « Au mille et un pâté !» Ah, un nom prédestiné, ah oui vraiment, un pâté par jour pour rester en vie, comme dans les contes des mille et une nuits. Tu l'aimais, hein? Eh ben, profites-en bien, parce qu'il en reste encore. Et il repartit d'un grand éclat de rire, fou, excessif. La porte claqua derrière lui et l'écho de son rire se répercuta dans les escaliers. Hagarde, exsangue, Marie-Jo tremblait de tous ses membres. Elle se tenait le ventre à deux mains, le regard vide. Sur le tapis, le vomi dégageait une odeur pestilentielle, insoutenable. Elle se dirigea vers la fenêtre pour aérer. Dans sa poche, son portable se mit à vibrer. L'explosion se produisit à l'instant même où s'afficha le SMS de Georges. « Joyeux anniversaire, pardon pour mercredi, imprévu, je t'aime. » L'explosion, elle, provenait du laboratoire.
Quand ce soir-là, j'entrais dans la cuisine, fatigué des conversations de whisky glace, s'acharnant sur une carcasse, elle faisait cantine. Je rêvais d'être le poulet qui faisait face. Elle était si jolie, assise seule dans son coin, que je voulus lui proposer mieux que des restes. Je devançais les garçons au regard en coin, l'invitant à me suivre en lui prêtant ma veste.
Si vous croisez une jeune fille qui a faim, messieurs, passez votre chemin.
Il faisait pas bon traîner les pieds dehors. À 3 heures du matin, la lune était glacée. Et avant que le froid mordant ne nous dévore, je l'invitais au paradis des affamés. Malgré leur tardive, un garçon regard en coin servit un Welsh frites mayo noyé dans la graisse. Elle refusa d'abord l'assiette avec dédain, puis y goûta et se transforma en ogresse. en amuse-bouche, elle prit commande de pistaches d'olive et d'amande, une boîte de roll-mops en entrée et du foie gras sur canapé, un coq, une poule et puis son œuf, une caille, une pintade, un gros bœuf, une carbonade à la bière brune, un lapin de Garonne et ses prunes pour faire descendre un petit colonel, dit religieuse, une tarte au Mirabelle, fin du festin, belle Hélène, reine de Saba, Charlotte aux fraises, nos gâteaux, mousse au chocolat, plus rien pour se faire un 4 heures, à part les rognons du cerveau.
Si vous parlez une jeune fille qui a faim, laissez passer votre chemin.
Je fus le seul à réchapper de cette orgie, pour trouver un plumard, elle m'avait épargné. Enfin seul, dans l'intimité de mon logis, la belle m'autorisa à l'écouter ronfler. Le matin maladroit, je lui fis part d'un doute, de moi ou du frigo, lequel t'es le plus cher. Elle partit en criant, voilà ce que ça te coûte, tu sais ce que t'as, mais tu ne sais pas ce que tu perds.
Si vous croisez une jeune fille qui a faim, messieurs, passez votre chemin. Si vous croisez le garçon qui la suit, mesdames, n'attendez rien de lui.
Une jeune fille qui a faim. Par Blaireau sur la première. Donc après cette longue histoire étrange, une plus courte de Fernand Reynaud, qui est né un 19 mai. Voilà, alors aujourd'hui on lui rend un petit hommage comme ça.
Une drôle d'histoire.
Comme c'est agréable de rentrer dans un restaurant où ça sent bon le plat cuisiné. Ah, bah c'est vrai, hein, ça met en appétit. Des fois, on rentre dans des restaurants, ça pue la graille, il y a la serveuse qui est là. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger ? Se grattant la tête. Les critiques culinaires font demi-tour, tandis que chez vous, ah, maître d'hôtel, alors là, je hume le fumet, hein, ça sent bon le plat cuisiné chez vous. Bonjour, monsieur. Alors, chef, s'il vous plaît, presto. Si vous voulez vous asseoir, alors, prenez place, voilà. Merci. Alors, ça c'est le menu ? Alors, merci bien, merci bien. Ah, oh, ben ça sent bon le plat cuisiné chez vous quand même, hein, je vous le dis, mais ça met en appétit, ça. Comment se fait-il que les êtres humains, comme nous sommes compliqués, que l'odorat va chatouiller des petites cellules dans le cerveau, et puis on en a l'eau à la bouche, hein ? C'est étrange, ça. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger, moi, dis-donc ? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger, maître d'hôtel ? Oh, mais ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites ? Oh, ben, non, enfin, je voudrais apprécier autre chose, hein ? Puisque ça sent bon le plat cuisiné. Moi, je suis un gastronome, attention, attention. Ah, ben, je dirais même mieux, je suis gourmet, voilà. Et comme ça sent bon le plat cuisiné, je voudrais manger autre chose qu'un steak frites. Alors voyons voir sur la carte, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, oh bah dis donc, il y en a du choix là-dedans. Ah, il y en a autant devant que derrière. Qu'est-ce que je vais prendre ? C'est un grand restaurant, hein, quand on voit des menus qui n'en finissent plus. Je vais manger une quiche Lorraine, tiens. Ah, plus du tout de quiche Lorraine, monsieur. D'ailleurs, je ne sais même pas si un jour il y en a eu ici, voyez-vous. Ah, ah. Ah bah alors, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, moi ? Mais ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites, peut-être. Mais vous êtes un farceur, vous. Mais non, mais comme ça sent bon le plat cuisiné. Non, parce que je hume, là. Hein. Je hume le fumet. Alors, je vais manger... Un gratin dauphinois. C'est bon, ça, gratin dauphinois. Avec une petite épaule d'agneau, ça c'est très bon. Parce que le goût de l'agneau se marie très bien avec le gratin. Ah, vous fatiguez pas. C'est une erreur de la dactylo, ça, monsieur. Parce que la religion de notre chef cuisinier lui interdit de toucher le mouton. C'est un péché mortel dans sa religion. Oh, ah bon ? Je connaissais pas cette religion. Oui, c'est nouveau, monsieur. Ça se fait beaucoup en ce moment, monsieur. Il y a les hindouistes, il y a les calvinistes, il y a les bouddhistes, il y a les moutonistes. Ah, bon. Bah, dis donc, je suis en train de penser à ce pauvre Dieu. Hein, il doit en avoir des soucis avec toutes ces religions.
Surtout que chacun croit que c'est lui qui a la vérité. Enfin, je veux pas qu'il fasse un péché mortel, hein, s'il touche du cochon. Du mouton. Donc, je confondais avec les musulmans. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, moi? Mais, ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites? Oh, dis donc, je suis gentil, faut pas exagérer non plus. Je suis bonne pomme, mais si vous vous foutez de moi, là, ça, non. Je prends le steak et puis je vous le mets sur... Vous redites plus, là, votre steak frite. Il faut pas vous moquer de moi, monsieur, hein? Parce que moi, je suis client, ici. Je viens ici, alors il faut pas vous foutre de moi, hein? Bon, alors... je vais manger une douzaine d'escargots, voilà. Ah, mais il y a plus du tout d'escargots, monsieur. Il en restait un. Il vous a vu arriver, il est parti en courant. Non, mais... Mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger, alors? Ben, ce que vous voulez, monsieur. Un steak avec des frites, peut-être. Non, oh, écoutez, maître d'hôtel, poussez-vous, avant qu'il y ait un fait divers demain dans le journal. Messieurs les garçons, poussez-vous, messieurs les chefs de rang, là, laissez-moi passer. Où est-ce qu'elle est la cuisine? Madame la téléphoniste, où est-ce qu'elle est la cuisine? Non, parce que il vient bien de quelque part, là, ce parfum de bonne cuisine. Il faudrait pas me prendre pour un crétin, quand même. Madame la vestiaire, où est-ce qu'elle est la cuisine? Ah, merci beaucoup, excusez-moi, pardon, là. Oh, voilà. Ah, c'est la pâtisserie, excusez-moi. Eh bien, ah ben, il y en a du monde hein, dans ce restaurant. Voilà la cuisine, là. Enfin, excusez-moi, chef, mais... Ah, mais oui, c'est ça qui sent si bon dans cette marmite en cuivre. Oh, dis donc. Des petites lentilles qui mijotent avec des petits lardons, des petites saucisses. Mais oui, c'est ça que je veux, c'est ça. Ah, ça, jamais. Monsieur. Ah bon? Et pourquoi? Ça, c'est pour le personnel.
J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il disait petite tête, haute toi de la cmimette, je me suis résigné à le bouffer le premier mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Sauvage ou pirate, on se tire dans les pattes et le moins malin peut crever de faim. Soldat ou artiste, on est tous des tristes, ciré malheur à qui manque d'estomac. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Mambo, miam miam. Dans ma garçonnière, misère de misère, la femme du voisin se fait couler un bain. Quand la mienne se déhanche, j'ai le cœur qui flanche de voir les autres tudieux. La bouffée des yeux, mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Viendra le jour, certes, où la gueule ouverte, comme ça, de but en noir, j'irai me faire voir. Je ferai des orphelines, et par la racine, je vous ferai les orties et les pissenlits. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam.
Miam.
Samba
Il y a eu du mambo miam miam avec Serge Gainsbourg et du haut samba et au tango avec Paola Morellenbaum. On ferme nos livres maintenant.
Drôle d'histoire avec Fémina.
C'est Kim Tanguay qui a réalisé cette émission et Jean-Baptiste Roumens, lui, nous a fait la programmation musicale. Juste après les informations, Étienne Fernagu sera là pour la ligne de cœur. Bonne fin de soirée sur la première, 22h.